Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour,
welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric et Thomas Beauclair. Bonjour Frédéric et Thomas.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement architecte d'intérieur scénographe et designer que je qualifierais de polymorphe. C'est bien ?
Pourquoi pas, très bien.
Pourquoi pas. Vous êtes aussi père et fils. Frédéric, vous êtes le fils d'Henri Beauclair.
Absolument.
Et Thomas, le petit-fils d'Henri Beauclair.
Exactement.
Chers auditeurs, rappelons-nous, Henri Beauclair fut associé de l'architecte Marcel Lotz et de mon oncle Paul Deponte. Ils ont signé tous les trois de nombreuses réalisations, longtemps de la reconstruction. Et pour l'un des plus emblématiques, la Maison des Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail, à Paris. J'avais travaillé sur cette œuvre en structure métallique dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la construction en métal, œuvre d'ailleurs récemment sauvée et réhabilitée. Et s'il y avait beaucoup de deux pontes dans le projet, parce que sans chauvinisme et parce que vraiment je me suis penchée sur la question, il était clairement apparu que l'histoire devait à Henri Beauclair ses futuristes et ingénieux volets, entre guillemets, de grand-mère métallique. Parce que nos pères, aussi entre guillemets, les qualifiaient ainsi non sans humour. Bref, Thomas, sans doute avez-vous hérité de votre grand-père dans l'ingéniosité de votre démarche, puisque vous travaillez sur des objets, je dirais en designer augmenté, en inventeur, par exemple un casque de moto, par-ci, qui vous ramène chez vous la nuit, un récolteur de cresson très design, par-là, en passant par Pina, qui filtre l'eau et ou prépare des décoctions de plantes grâce aux vertus ignorées du pain.
Exactement.
Quant à vous, Frédéric, vous êtes aussi diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris. Je crois que c'est, vous sortez de la même école.
On a fait la même école, oui, ouais. Absolument.
Vous, dans la section architecture intérieure, et Thomas, vous...
Design de produits.
Design de produits. Donc, Frédéric, vous ouvrez votre cabinet en 1988. Après un passage en 1989 au sein de la direction des musées de France, vous vous spécialisez dans la scénographie d'exposition. Cette expérience vous ouvre une carrière passionnante dans de nombreux musées et palais nationaux. En 33 ans, vous avez conçu et réalisé plus de 280 expositions temporaires et installations permanentes, soit plus de 100 000 m² dans 112 lieux différents, aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment au Canada et à Hong Kong. Vous réalisez la scénographie de plusieurs grandes expositions comme Science et Curiosité à la cour de Versailles, au château de Versailles, Fashion in Fashion au musée des arts décoratifs de Paris ou encore Art Deco The France China Connection à Hong Kong. Vous avez aussi à votre actif la galerie des Carrosses au château de Versailles en exemple de scénographie permanente. Dans chacune de ces réalisations, Frédéric Beauclair, vous prenez le parti d'une architecture épurée, sculptée par la lumière et qui se veut au service de la beauté des œuvres exposées. Quand j'ai reçu votre book de presque 200 pages, je ne savais plus comment choisir. Je me suis dit, allons à l'essentiel. Alors, chers auditeurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous faisons un pas de côté. Ici, la filiation nous emmène de la grande échelle vers la plus petite, de l'architecture à l'objet et à la précision. De l'innovation à l'histoire et vice-versa. Un numéro somme toute digressif et passionnant. Voilà. Ça vous résume ?
C'est bien.
C'est bien.
Bah, bon, ben voilà, c'est fait.
Non, non, pas du tout. Parce que, oui, qui dit grande échelle à la plus petite échelle, bien sûr, ça n'est pas... Il n'y a aucun jugement de valeur, parce qu'on sait très bien que...
C'est ça justement qui est intéressant.
Ouais, ouais.
Mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où se sont ancrées vos envies d'architecture intérieure et de design ? Quelles ont été vos études ?
Alors, comment dire ? Mon père m'a toujours emmené sur ses chantiers, sur ses réalisations. Il m'a promené, je passais souvent à l'agence, à tel point que... Il me faisait faire des maquettes, il m'a beaucoup, beaucoup poussé, plutôt sensibilisé, tout en me disant que, surtout, si tu as le choix, ne fais jamais de l'architecture. Et ça, mon grand-père qui était peintre me disait, fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre.
Alors, votre grand-père peintre, puisqu'on remonte dans les générations, c'était le père de votre père,
de ma mère.
De votre maman.
Ma mère, oui. Et elle me disait, fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre. Bon, ok, avec ça sous le bras, et une scolarité un petit peu, on va dire, le cancre parfait. Même si j'étais de l'école alsacienne, je peux dire que ça a été plutôt un désastre, à tel point que la seule chose qui m'intéressait, c'était le dessin et la mécanique. Et je me dirigeais plutôt vers une voie d'ingénieur mécanicien. Je voulais faire des moteurs de Formule 1, enfin bon... Puis, évidemment, il fallait un niveau de maths très élevé que je n'avais évidemment pas. Je me suis résigné, ce qui ne m'empêchait pas de bricoler beaucoup. Mon père, un peu effaré par le désastre, me disait finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la vie ? C'est créer des choses et les réaliser, si possible, avec tes mains. Bon, pourquoi pas. Et puis, un ami de mon père, qui s'appelait Wojanski, mais Robert, le peintre, qui était professeur aux arts appliqués au métier d'art, Olivier de Serres, m'a fait visiter l'école. Et là, une révélation, je me suis dit, ça y est, c'est là qu'il faut aller. Et alors, on m'a dit, okay, comment fait-on ? Il faut signer où ? Part-on ? Ben là, il fallait passer un concours, et le concours des arts appliqués était quand même assez costaud. Et on m'a dit, écoute, si tu arrives dans les premiers, on te pourra... À cette époque-là, on pouvait entrer en seconde, première, terminale, et après on continuait jusqu'au DSA, diplôme supérieur. Et là, je suis arrivé second, donc c'était plutôt pas mal. Et on m'a permis d'entamer cette nouvelle vie qui m'a sauvé la vie, parce que là, franchement, il était temps.
Oui, mais bon, finalement, vous avez beaucoup appris à l'école de la vie, au contact de votre père.
Absolument, oui. Mm. Et oui, il avait des trucs qui m'ont permis de me dire, voilà, en gros, tu écoutes tout le monde, écoute toujours tout le monde. Par contre, suis ton idée. C'est-à-dire qu'en gros, suis la personne qui a ton idée, comme ça. Sans ça, on change d'idée tous les jours.
Oui.
C'est parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce métier.
Thomas ?
Moi, je pense que le début, ça a été d'aller aussi à l'agence où travaillaient du coup mon grand-père et mon père. Pour faire des petites maquettes, quoi. C'est un peu le souvenir que j'en ai. Et après, maquette, j'ai voulu être maquettiste. Donc j'ai passé c'était en terminale, j'ai passé le concours de maquettiste à Questembert, où j'ai été reçu. Et en fait, l'idée, les conseils étaient, est-ce que tu veux réaliser en maquette ce que créent les autres, ou créer et faire réaliser par d'autres ? Et en fait, comme j'ai eu aussi Olivier de Serres, donc l'ENSAMA, je me suis dit, si je sais dessiner des choses, je saurais aussi peut-être les réaliser avec mes mains. Donc j'ai fait l'ENSAMA, où j'ai fait la mise à niveau, le BTS, le DSA et le master.
Voilà. D'accord. Alors Frédéric, le début, comment ça s'est passé ? Le début de votre activité ?
Alors le début de l'activité, donc en sortant de l'école, pas toujours évident, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui était architecte d'intérieur, ainsi que ma belle-mère, et qui me faisait travailler le week-end. Enfin, j'étais un peu le... J'étais pas l'esclave, hein, ils étaient très très sympas et ils m'ont bien mis le pied à l'étrier dans ce domaine de l'architecture intérieure. Mais bon, j'ai appris des tas de choses, j'ai surtout vu ce que je ne voulais pas faire. J'ai fait des restaurants, des banques, pas mal de choses, d'hôtels. Voilà, il manquait quelque chose jusqu'au jour où, après avoir travaillé avec Paul Andreu sur l'Arche de la Défense et des logiers, j'ai passé un certain temps au moment où on faisait le plateau supérieur. Donc j'ai participé à l'aménagement intérieur avec Poutman des salles de conférence. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, mais ce n'est pas très créatif, puisque évidemment, la création n'était pas à mon niveau. Et je suis parti, ils m'ont regardé avec des yeux effarés. Mais comme, pourquoi t'es pas bien, là ?
Avec André Poutman, vous n'étiez pas bien ?
Oui, mais on ne la voyait pas souvent, elle dormait à moitié à ce moment-là. Il y avait Thierry Conquet qui était là. Il me disait, bon... Donne-lui un café, ça va pas le faire.
Ouais.
Et donc, je suis parti. J'ai fait un concours avec eux sur le pont d'Austerlitz. Et puis après, je n'avais plus de travail. C'était terminé. Et là, je me dis, je vais retourner à l'école. Je retourne à l'école voir un ancien prof et qui m'a dit, là, tu tombes bien. Il y a quelqu'un qui vient de sortir, qui cherche quelqu'un pour la remplacer. C'était un congé maternité et c'était à la direction des musées de France. Et là, extraordinaire, j'ai mis le pied dans une porte que je n'imaginais pas. Le monde des musées, que je connaissais comme tout le monde, mais de comment on faisait tout ça. Et finalement, la scénographie à cette époque-là n'existait pas. Pas vraiment. Disons qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais ce n'était pas vraiment aussi répandu que maintenant.
Mmh.
Voilà. Donc, et je suis passé 5 mois là et ils m'ont rappelé. Et c'est une machine bouche à oreille qui m'a entraîné jusqu'à maintenant. C'est une belle aventure.
Finalement, vous êtes très peu sur...
On n'est pas énormément, on est de plus en plus parce que finalement, il y a énormément de travail. Il faut penser qu'on a énormément de musées en France et à l'étranger qui font tous 1, 2, voire 3 expositions par an. Imaginez, alors ça, c'est pour tout ce qui est temporaire, mais permanent aussi. C'est deux choses un peu différentes, mais très intéressantes.
Thomas, le démarrage reste assez récent.
Le démarrage, oui, c'est pas très loin.
Mais il y a quand même des sacrés beaux objets, déjà.
Merci. Moi, j'ai démarré pendant mon master. Il fallait faire un stage de 6 mois que j'ai fait chez Sismo Design, qui est une agence parisienne, où j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses sur la méthodologie, le suivi de fabrication, vraiment tout le métier du designer, mais... pas juste le designer qui réalise un objet, vraiment le designer qui réfléchit à la totalité de l'objet. Et en fait, donc après ce stage, ils m'ont embauché en CDD. Puis à la fin de mon CDD, je me suis retrouvé au chômage, en fait. Et comme au chômage, j'ai pas très envie de rien faire, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire en attendant de chercher autre chose, en cherchant autre chose plutôt. Et donc, j'ai créé un décapsuleur qui m'a permis en fait de réfléchir par moi-même. C'était le premier objet que je faisais moi-même. Et puis après, Frédéric m'a donné le contact d'une personne qui avait besoin de faire des 3D. Donc en fait, j'ai commencé en faisant des 3D.
D'architecture intérieure,
donc pour des concours. Il s'avère que cette agence fait de l'architecture intérieure et de la scénographie. Donc voilà, donc ça rejoignait un petit peu à chaque fois
les
métiers. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire du design de produits. Pas tout de suite, parce que c'est quand même un métier où il faut faire confiance aux designers. Et souvent, c'est des designers qui ont un peu plus de bouteilles, en fait, qui prennent les projets, ce qui est assez logique. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à faire de la 3D, de l'architecture intérieure, scénographie, on va dire, avec Frédéric, et des projets de design d'objets. Et c'est toujours ce que je fais. Voilà.
Il y a déjà un certain nombre d'objets qui sont sortis.
Il y en a quelques-uns. Après, en design, c'est long à sortir.
Voilà, il faut trouver le financement.
Il faut trouver... Alors, soit c'est mes projets à moi. Et donc, ces projets-là, quand c'est moi qui les fais, l'idée, ce n'est pas vraiment qu'ils sortent tout de suite. C'est plus que moi, j'apprenne à faire l'objet. Donc, par exemple, pour la porcelaine, ça fait, 5 ans que je suis sur un projet qui n'avance pas beaucoup, mais qui me permet à chaque fois de me ressourcer, de faire par moi-même et de comprendre la technique de l'artisan. Et en comprenant la technique, en fait, on fait avancer ses propres projets.
Quel est votre ressenti dans le rapport à l'espace, justement, de l'objet à l'espace intérieur, à l'architecture intérieure?
On en parlait.
Et peut-être avec votre filiation, on peut remonter du coup jusqu'à l'architecture. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus?
Alors, mon rapport à l'architecture intérieure, moi, je le vois de différentes façons. Alors, c'est vrai que du coup, moi, je suis dans des échelles petites. C'est-à-dire que moi, je vais travailler au millimètre. Et du coup, quand je travaille l'architecture intérieure, justement, j'essaye de combiner les deux. Ça veut dire d'avoir une vision d'espace, mais aussi une vision d'objet. Ça veut dire que je vais vraiment attirer l'attention sur des petits détails qui parfois en fait sont pas forcément pris en compte parce que on est dans des espaces très grands. Mais moi, je vais faire attention à la couture de tel matériau, vraiment ces petits détails-là. Et je pense que c'est ça ma vision de l'architecture intérieure, c'est comme si tout était objet.
Vous travaillez à échelle 1 à chaque fois ?
Oui. Moi, sur les logiciels 3D, de toute façon, tout est échelle 1. Ce qui permet d'aller au millimètre, ce qui peut être un problème parfois en architecture intérieure.
Oui. Est-ce que on va revenir à vous, Frédéric ? Mais l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors, on commence par vous, Frédéric, et puis après, ça donnera à Thomas le temps de s'imprégner de la question.
Alors oui, moi, c'est sûr qu'en sortant de l'école, je n'avais aucune idée exprès, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée préconçue par rapport à ça. Je savais que je voulais être libre de m'amuser et de faire ce qui me plaît. Ça, c'était une chose certaine, pas évident à réaliser. Mais... Et je pense que j'ai atteint largement ce que j'espérais, parce que par le biais des musées, j'ai connu des gens effarants, des gens des passionnants, passionnés, des lieux non moins passionnants. J'ai eu accès à des endroits extraordinaires. Et puisque dans notre formation d'architecte d'intérieur, on a aussi de l'histoire de l'art. Et c'était un petit peu la chose qui me manquait. C'était un manque. C'est vrai que quand vous faites des boutiques de chaussures, c'est moins enrichissant, même s'il y a moyen de faire des tas de choses. Mais là, on passe notre temps à apprendre tous les jours. On est candide devant des sujets complètement fous. Oui, tous les jours, j'apprends des choses, je complète, c'est passionnant. Et alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est de connaître les gens qui se passionnent sur différents sujets. Soit ont des raisons parce que ce sont des enfants d'artistes. J'ai connu des gens assez dingues. Alors, c'est pas les enfants d'artistes n'ont pas toujours fait quelque chose de leur vie, mais en tout cas, ils ont su transmettre la mémoire, ce qui n'est pas toujours évident. J'en sais quelque chose. Et ce qui est fou, c'est de recevoir autant d'informations d'un coup. Et là, on se dit, mais je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. Je n'arriverai jamais à absorber autant d'informations. Et puis, finalement, on a quand même... la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, finalement, il reste quand même quelques bricoles.
Ouais.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un regard candide puisqu'on ne connaît pas le sujet. Et donc, on va peut-être plus facilement à l'essentiel. On fait la synthèse de ce qui est important pour symboliser vraiment la chose, quelque chose qui va transmettre le message que peut-être la personne qui a travaillé pendant 10 ans sur un sujet a du mal à percevoir. Donc, on est vraiment complémentaires.
J'entends. Thomas ?
Alors, moi, en sortant de l'école, je ne sais pas si j'avais un a priori sur ce que je voulais faire, à part me faire plaisir. Donc, en fait, depuis le début, c'est un peu l'idée, c'est de trouver ce qui va être intéressant et ce qui va me faire plaisir. Donc, je pense que pour l'instant, oui, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire après l'école. Et puis, voilà.
C'est déjà formidable. Oui. C'est une grande chance.
C'est une grande chance. J'espère que ça va durer.
Bon, on va passer maintenant à vos projets, Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous dérouler cette histoire, peut-être en retenant au fil du temps vos projets emblématiques ?
Alors, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment de projets emblématiques. Si, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, bien évidemment, mais tout ce que j'ai fait à Versailles, c'est vrai que c'est toujours... Versailles, c'est plus gros, c'est plus grand, c'est plus.
Ouais, c'est Versailles, plus... c'est le monde entier qui...
qui défile là-bas, ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué par les gens que j'ai rencontrés, entre autres Béatrix Saul, qui était pendant un certain temps à la tête de la conservation, et qui... Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé entre nous. On fabriquait les expositions... sur sa table, elle me racontait son histoire et en même temps je dessinais et c'est mes dessins extraordinairement, elle comprenait les plans ce qui est rare quand même chez les commanditaires, c'est pas toujours évident et elle comprenait très bien et donc à chaque fois que je dessinais, ça lui éveillait quelque chose et on changeait, c'était un va-et-vient perpétuel et ce qui a donné des résultats assez étonnants. Donc c'est vrai que toute la partie versaillaise, mais par contre, ce qu'on peut, j'ai eu plusieurs périodes, on va dire, j'ai des obsessions, j'ai des choses qui reviennent systématiquement, peut-être trop d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse le... Mais maintenant, on vient me chercher un peu pour ça, donc c'est un petit peu gênant. J'ai une particularité, c'est que je travaille l'architecture lumineuse. La scénographie, c'est vraiment de l'architecture intérieure.
Ça, avec l'imaginaire en plus.
Avec l'imaginaire en plus, c'est vrai.
Encore plus, on va dire.
Ouais. Il y a une immersion. Alors, ça dépend des sujets, évidemment. Quand j'ai commencé, j'étais pas scénographe, j'étais muséographe. Le terme nous a été fauché par ce que j'appelais les muséologues, donc les commissaires d'expo qui se sont appropriés le pourquoi pas. Donc on est devenu scénographe après. Mais je faisais vraiment une différence entre la muséographie et la scénographie. La muséographie, pour moi, c'était d'amener le regard du visiteur vers l'œuvre, l'œuvre primée, et puis on s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'on restructurait l'espace autour de l'œuvre et on était relativement modeste autour de l'œuvre. Par contre, la scénographie, on était plus à mettre en valeur un thème, les objets étant là pour illustrer le thème, et finalement, la scénographie était là pour aussi vraiment enrichir et attirer manipuler. Moi, j'aime bien ce mot, la manipulation positive de la scénographie, parce qu'on emmène là où on veut, pour le bien du visiteur, pour qu'il comprenne tout. Notre but, c'est qu'il rentre, il soit attiré. D'ailleurs, la première exposition que j'ai faite à Versailles avec Pierluigi Pizzi, un grand scénographe de théâtre et d'opéra, qui m'avait dit, pour moi, la scénographie de musée, c'est comme au théâtre. Si on loupe le lever de rideau, c'est foutu. Et ça m'avait vraiment resté. Et donc, l'introduction est très importante. Il faut attirer le visiteur, lui en mettre... on va lui expliquer un petit peu ce qu'il attend, mais aussi l'intriguer. Et petit à petit, par la lumière, c'est là où je me différencie peut-être un peu des autres. C'est mon truc. Les structures que je vais construire sont lumineuses. C'est de la lumière à travers des images, à travers des couleurs éventuellement. Attention aux couleurs, moi j'ai beaucoup de mal avec les couleurs car je pense qu'il faut rester relativement neutre si on veut contraster véritablement avec l'œuvre pour la mettre en valeur et pas la détruire. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut bien respecter à mon avis. Et cette lumière, elle est là pour emmener le visiteur de quelque chose d'important à quelque chose d'important. Le visiteur, c'est comme les moustiques, ça s'attire par la lumière. Et toujours intrigué, toujours attiré, montré. Attention, là, vous allez voir à quelque chose, mais on ne vous montre pas tout. Si vous passez par là, vous allez pouvoir accéder. C'est une sorte de parcours initiatique, et à la fin, on espère montrer la chose qui est le clou de l'opération et qui va véritablement conclure.
Vous êtes en train de dire que la lumière est un guide ?
Oui, absolument.
Waouh ! Alors, j'ai repris contact en tombant sur LinkedIn sur une actu. Vous venez de livrer une petite scénographie dans la maison de Cocteau ?
Oui.
C'est ça ? Qu'est-ce que vous avez comme peut-être actualité ? Ou quelles sont les scénographies et les expositions qu'il faut aller voir ?
Oui, dans toute ma carrière, j'ai passé mon temps à rencontrer des gens avec qui je me suis fait des amis. Tous les conservateurs, enfin pas tous, mais beaucoup, vraiment la très grande majorité des conservateurs ou des enfants d'artistes sont devenus des amis et qui me rappellent en disant voilà, on a aimé ta façon de voir les choses, ton côté humain, on s'est toujours bien, marré, quoi, faut le dire. On s'amuse beaucoup. Et là, par exemple, pour la maison de Mille-la-Forêt, c'est une maison qui est un petit peu en perdition, qui a eu un renouveau. Et c'est dommage, cette maison était pour des raisons très louables, pour favoriser l'accessibilité. On l'a totalement détruite. On lui a arraché son âme. Et ça. C'est très difficile à récupérer. Au moment où elle a été faite, je l'avais visitée, je m'étais dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et je faisais la maison de Macorlan à ce moment-là, et je me suis dit, mais non, cette maison, on va la restaurer comme une vieille peinture. Et bon, voilà. Donc, le temps a passé. Maintenant, l'idée, il n'y a pas énormément d'œuvres à présenter. C'était finalement deux petites expositions autour de Parade, un ballet que Cocteau avait conçu avec ses amis du moment. Et donc là, il n'y a rien à voir, il y a tout à comprendre. Il n'y a rien à voir dans le sens, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est quelque chose tout petit. Voilà, on peut, après avoir fait des milliers de mètres carrés, on peut aussi prendre un plaisir immense à faire une expo de 60 mètres carrés et une autre sur le bestiaire de Jean Cocteau, parce que c'est vrai qu'autour de lui, il y a beaucoup d'animaux. Entre autres, la Belle et la Bête, si on va aller jusque-là. Et il s'agissait, dans un endroit de la maison, où je ne sais pas passer grand-chose, il n'y a pas de lieu culte. Voilà, on a créé un espace très particulier, basé sur la lumière, parce que je pense que Cocteau, c'est beaucoup ça, l'ombre et la lumière, et le noir et blanc, qui nous emmène d'un espace à l'autre. Donc c'est des structures, toujours la même, des structures, des sortes de caissons lumineux, protégés par une toile qu'on peut imprimer, on peut exprimer des textes, toute la signalétique passe par là, on peut pas dire qu'on ne peut pas lire la signalétique à partir du moment où la signalétique est traversée par la lumière. Et puis toute cette structure est rattrapée par une obsession que j'ai depuis le début, les plafonds. Les plafonds, parce que les proportions des espaces sont essentielles. Si on veut exprimer une angoisse, on rétrécit l'espace et on augmente la hauteur sous plafond. Et si on veut créer une intimité, quelque chose de plus chaleureux, on va faire l'inverse. Et même si on n'a pas d'espace, on a tout intérêt à descendre les plafonds très bas. J'ai une anecdote qui m'a toujours marqué à une exposition sur Pierre Le Cuir à la Bibliothèque Nationale, qui est assez ancienne déjà, mais... Et j'avais un plafond, c'était dans la galerie Mansart, donc une galerie très présente, très chargée. Il fallait vraiment faire la différence. Mais malgré tout, voir cette galerie qui est très importante, qui est très belle, mais qui n'avait rien à voir avec le sujet. Donc toute la structure que j'ai construite était là pour faire oublier par moments et montrer que ça existait. Mais j'ai descendu, pour des raisons de proportion, descendu le plafond à 2,10 m. Je me suis fait rouler dans la boue en disant que c'était inadmissible, pas possible, que tout le monde allait se prendre le plafond. Bon, ok. Têtu comme je suis, je l'ai fait. Et le jour de l'inauguration, tout le monde était content. Et je me disais, et là, tout se passe bien, 2,10 m. Ouais. Et là, ils ont compris que oui. Mais 2,10 m, à condition qu'on ait des lumières latérales, ce qui élargit énormément. Et cette lumière est très importante parce qu'elle s'auto-éclaire. L'exposition s'auto-éclaire et permet d'éviter toutes sortes de projecteurs très coûteux. Et il m'arrive de travailler pour des gens pauvres. Et plutôt que de faire des cimaises et toute une grille de techniques avec des spots très coûteux, là, avec cette histoire d'architecture lumineuse, tout s'auto-éclaire. Il y a juste 2-3 spots qui vont étayer pour amener l'attention sur un point particulier. Mais voilà, tout se fait... à 50 lux, puisque ça, c'est quelque chose qui nous bride beaucoup. On doit rester à 50 lux pour justement préserver les œuvres les plus fragiles.
Et puis, vous êtes dans la durabilité aussi, dans le développement durable, dans l'économie d'énergie.
Exactement. Alors là, il y a plein de choses à dire dans le domaine.
Thomas, sur votre parcours, vos deux projets.
Mes projets... Alors mes projets, moi, ils sont... Alors comme je disais au début, je ne fais pas que du design d'objets. Donc j'ai des projets en design d'objets, j'ai aussi des projets, alors moins maintenant, en tout ce qui est image 3D, modélisation image 3D pour les architectes. Et nous avons aussi, là je dis nous, parce que des projets d'événementiel avec Frédéric, qui tombent de temps en temps, où on se fait plaisir sur des sujets hors des sentiers battus pour nous deux. Mais donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces grandes catégories-là. Et puis j'ai aussi l'architecture intérieure dernièrement, où j'ai refait tout un espace pour une maison de champagne. Voilà.
Donc vous avez reçu cette commande
d'architecture intérieure. En fait, c'est, à la base, ça venait pour Frédéric, qui, de contact en contact, en fait, a eu... On lui a proposé de refaire, en fait, le parcours historique de la maison de champagne Louis Roederer. Et donc, à la base, justement, on s'était associé sur ce projet-là donc à trois avec une décoratrice, pour en fait donner un petit peu de nous-mêmes et faire évoluer le projet vers quelque chose. Comme c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué à faire, autant mettre tous les cerveaux en même temps. Et puis en fait, j'ai récupéré le projet qui s'est en fait transformé en salon de dégustation, salon VIP, sortie de cave dans un truc énorme et que j'ai mené à bien puisque ça vient d'ouvrir. Voilà. Et donc c'est mes premiers pas en fait en architecture intérieure pure, où j'ai pu donner mon regard de designer sur justement plein de petits détails qui ont fait que ce projet, alors pour le coup très luxe, a pu avoir l'ampleur qu'il a avec justement les conseils avisés de mon père et bien sûr le travail de la décoratrice qui a fait vraiment aussi le travail couleur, matière, lumière, voilà.
Mais le deal au départ, c'était justement j'accepte à condition que ce soit lui qui le fasse. Donc c'était parfait. On a commencé ensemble et hop, la passation s'est faite admirablement. Et
peut-être lui... parce que c'était plus figé comme projet, parce que c'était...
Parce que peut-être que je me sentais à l'aise dans l'équipe qui avait été menée, ou en fait, même si je suis designer, alors bien sûr, avec le grand-père et le père, j'ai vu un petit peu... Déjà, ce que c'était qu'un plan, comment on parle, parce qu'en fait, on travaille dans le même lieu.
Donc, et dans l'atelier, j'avais été reçue par Henri Beauclerc.
Dans l'atelier de mon arrière-grand-père peintre, puis de mon grand-père architecte.
Oui, parce que l'atelier, c'est l'atelier du grand-père. De mon grand-père.
Du grand-père du côté de votre mère.
Voilà, qui était centre. Et du coup, je pense que je comprends un petit peu les codes de l'architecture intérieure. Et dès que j'avais des questions, je demandais à Frédéric. Et puis, quand j'ai vu que j'arrivais à... Parce que c'est beaucoup une histoire de communication. Grâce à mes plans, grâce à mes connaissances de design, mais en fait, qui peuvent être appliquées en architecture intérieure, j'ai vu que ça marchait. Donc on a continué.
Alors, comment on arrive quand même à travailler sur une machine qui récolte le cresson? Et en plus, une belle machine, parce que les machines, elles ont une esthétique particulière et parfois intéressante. Mais là, on voit qu'il y a la patte du designer
est passée
par là.
Ça, c'est un projet d'école, le récolteur de cresson, où on avait fait un partenariat avec l'UNESCO et des récoltants de cresson. Et on avait fait un projet à trois. Et en fait, notre idée, c'est, on était à trois, une même philosophie, qui était de se dire, cette personne qui récolte du cresson, il a déjà un savoir-faire qui ne vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'ils font d'une certaine manière depuis très longtemps, donc il y a forcément une raison. Et l'idée, après, c'est nous, en tant que designer, de venir adapter sur de l'ergonomie, parce que c'est un métier très, très difficile, il travaille dehors et dans l'eau. Donc on s'est dit comment faire en sorte que d'adapter un petit peu leur travail pour qu'ils puissent faire exactement la même chose, mais mieux et avec des moyens qui ne soient pas mirobolants. Parce que pour moi, mon travail de designer, c'est toujours de travailler pour quelqu'un. Donc si cette personne n'a pas les moyens de se payer ce que je dessine, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était vraiment ça. Donc c'est un projet d'école.
D'accord. Et alors le casque ?
Le casque Cosmos, ça c'est pour une start-up. Mm-hmm. Donc je leur ai dessiné le casque. C'est-à-dire que là c'est le client qui est venu me voir en me disant moi j'ai un casque, on va dire nouveau. J'ai ma petite idée de ce que je veux faire. Mais voilà, après on va faire le projet ensemble. Donc moi j'ai dessiné le casque en prenant en compte leur technologie, puisque c'était une start-up qui... En fait, j'ai adapté le casque au fur et à mesure à la technologie pour le mener jusqu'à la phase de prototypage. Donc moi, je me suis arrêté à la phase de prototypage, mais c'est moi qui ai fait tout ce qui était pour l'impression 3D, choses là. Donc là, voilà, j'ai aussi pris en compte la finalité du projet pour moi dessiner le projet. Et Ubiquiti, c'est aussi un projet d'école, un partenariat avec PSA. En équipe aussi, avec des anciens camarades. Et là, l'idée, c'était le dernier kilomètre. C'est-à-dire comment on fait pour rentrer d'un point A à un point B, par exemple à Paris. Et on a trouvé que le meilleur moment où, en fait, on a besoin de rentrer... Et où
c'est la nuit quand on a probu.
Exactement. Quand on était étudiant, ça faisait sens. Donc l'idée, c'était de faire un moyen de transport autonome pour faire en sorte que les personnes fatiguées ou très fatiguées puissent rentrer parfaitement bien chez elles le mieux possible et toujours en mettant un petit peu d'innovation. Parce que quand on est à l'école, c'est ça qui est important, c'est de mettre de l'innovation. On sait que c'est potentiellement réalisable. On ne sait pas trop comment ça va être réalisé, mais on essaye de pousser le curseur un peu plus loin que de faire quelque chose qui existe. Et c'était la demande de PSA.
Bon... Fort intéressant. Donc ça, ce sont des projets qui sont en attente d'être diffusé ?
Alors, Ubiquiti, non, puisque en fait, tous les projets d'école n'ont pas vocation à être réalisés réellement, mis à part mon projet de diplôme que je n'ai pas poussé parce que très compliqué, et puis à l'époque, je n'avais pas forcément les épaules pour le faire. Le casque, il a été repris par une agence, ce qui est normal, voilà, et il est vendu, je crois. Je n'ai pas l'actualité sur ce projet-là. Puis après, j'ai d'autres projets qui, eux, pour le coup, sont réellement sortis là.
Alors, lesquels ?
Eh bien, je travaille pour une entreprise qui s'appelle EODEV. C'est une start-up qui crée des solutions de groupe électro-hydrogène. C'est-à-dire qu'on vient faire de l'électricité avec de l'hydrogène. Et donc ça, c'est aussi un partenariat avec un ami qui m'a fait venir dans le projet. Et donc, nous avons créé la première version de ce groupe électrogène qui s'appelle le GEH2. Qui est sorti cet hiver. Et là, nous sommes sur la suite. Je continue à travailler avec cette entreprise. Et donc ça, c'est un projet que vous pouvez voir, j'espère, bientôt dans la rue, qui arrive sur les salons, qui, pour le coup, c'est vraiment mon travail de designer qui arrive à sa finalité.
Et donc, cet objet va servir à tout le monde ou quelle sera son utilité ?
Son utilité, c'est de remplacer un groupe électrogène à gasoil. Et en fait, de faire de l'électricité en recrachant juste de l'eau et de la vapeur d'eau. Et donc ça va être... donc c'est actuellement, j'ai pas toute l'actualité, mais des partenariats avec des sociétés d'événementiel qui consomment beaucoup. Ça peut être aussi des hôpitaux ou alors un dérivé pour le monde maritime. Voilà. En fait, l'idée, ça peut être sur les chantiers. L'idée, c'est vraiment, au lieu de créer de l'électricité avec du gasoil, on crée de l'électricité avec de l'hydrogène, ce qui est le futur.
Fort intéressant, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Bon, Frédéric, vous pensez un jour avoir recours à cette invention dans vos scénographies, dans l'envers du décor ?
Oui, pourquoi pas, parce que on parle beaucoup de scénographie intérieure, mais pourquoi pas des scénographies extérieures ? Ouais. Donc, en effet, pour amener l'électricité... Pour ma fameuse lumière, il va falloir quand même...
Comme tu es en LED, tu vas pouvoir consommer longtemps. Là.
Ah, ça, quand même, en 30 ans, ça a drôlement changé, quoi. Ouais. L'éclairage.
Peut-être qu'on peut revenir sur les leitmotifs. Vous parlez de lumière, de plafond. Il y en a peut-être d'autres.
Oui, il y a des tas de trucs. Moi, c'est vrai que j'ai eu toute une époque où les vitrines me donnaient des boutons. J'avais une réaction forte. Bah, c'est toujours par rapport à la Bibliothèque nationale. S'ils m'écoutent, ils vont me bénir. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec les vitrines où on commence par se voir. Alors, ça peut plaire à certains narcissiques, mais on se voit, on se fait ombre. On fait de l'ombre, surtout par rapport à ce qu'on essaye de voir. Et puis, petit à petit, on finit par voir l'objet. Je trouve ça dommage, donc j'ai beaucoup travaillé sur le fait qu'une vitrine pouvait ressembler à autre chose, qu'elle pouvait être intégrée dans autre chose, et mettre au point tout un système de présentation qui soit plus, là, par exemple, un tableau n'est pas obligé d'être accroché à un mur à égale distance sur un fond X, et ce qui fait qu'on a finalement un lieu qui n'est pas... Oui, bien sûr, on va voir l'œuvre, mais c'est très ennuyeux, et que je pense qu'on peut travailler en trois dimensions, c'est-à-dire qu'avec ce système de lumière, de parois lumineuses, on peut venir ne pas accrocher, enfin on peut avoir une première lecture qui est sur ce caisson, mais on peut avoir une deuxième lecture qui est incrustée dans le caisson, c'est-à-dire qu'on peut incruster une vitrine qui vole dans la lumière comme par enchantement, et puis on peut venir accrocher un tableau sur un système que j'ai mis au point de tube qui met l'œuvre encore en avant. Et comme ça, on peut faire des accumulations d'œuvres qui pourraient presque se superposer, suivant évidemment ce qu'on présente. Il faut qu'il y ait du sens, toujours, ça c'est évident. Mais avec ce système-là, en plus, si on travaille la lumière latéralement, on arrive à avoir toujours 50 lux. Donc, si on travaille en angle, on a, avec ce système-là, toujours quelque chose d'harmonieux, de chaleureux et d'attirant vers le sujet et la symbolique qu'on recherche pour faire comprendre au maximum le sujet. Finalement. Et faire rêver aussi, parce que ça, c'est le rêve et la poésie. Moi, j'aime bien les transparences, les voilages, les effets de transparence. C'est très important pour moi.
Oui. En fait, vous travaillez en immatérialité, quelque part.
Oui.
pour un archer intérieur, c'est un défi.
Alors là-dessus vient se greffer les multimédias, ce qu'on peut intégrer des images, soit projetées par-dessus, intégrées dedans. On peut... Alors je me méfie toujours du multimédia, il ne faut pas oublier que c'est un outil. Et en aucun cas, ça doit être une finalité. On ne va pas voir la dernière création. L'exposition qui m'a vraiment marqué, puisque vous... à Versailles, on avait fait, c'était il y a une douzaine d'années, Sciences et Curiosités, la cour de Versailles, où on rentrait dans un lieu qui était une projection à 360, mais filmée en simultané entre, à 360 degrés sur un plan elliptique de 33 mètres. C'était un lieu qui permettait d'introduire cette exposition et de montrer que là, on était à la pointe du progrès aussi. Si Louis XIV avait connu ça, il aurait été super fan. Voilà, donc c'est, tout ça se mêle, le son, les odeurs. Dans la maison de Macorlan, je promène les visiteurs dans sa cuisine où on entend le ragoût mijoté, mais on le sent aussi, le ragoût. On entend sa femme qui nous dit de mettre les patins dans l'escalier. On a des petites astuces comme ça. Qui est le son, l'odeur, la vision, tout ça, c'est très important.
C'est magique, tout ça. Frédéric, vous avez une petite équipe, des partenaires qui grattent pour vous?
Personne.
Personne. Vous faites personne. Tout
Non, non, les seules choses que je ne fais
c'est
pas...
C'est moi l'équipe qui gratte.
Non, je refile des mon fils à Thomas, tout ce qui est 3D, parce qu'il est...
Il est bon.
Plus que bon, oui. Non, c'est amusant parce que les 3D, au début, quand j'étais à l'école, je les faisais pour mon père. C'est bien, ça se transmet. Voilà, sauf chacun. Que les 3D se faisaient à la main à l'époque. On appelait ça des perspectives.
Voilà. Avec de l'aérographe.
Et je faisais tout à l'aérographe, l'aérofeutre même. Donc voilà, quand j'ai la flemme de reprendre mon crayon, et il le fait tellement bien et vite. Voilà, et puis ça permet de faire d'autres choses.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants dans vos disciplines respectives aujourd'hui?
Alors, je le dis toutes les semaines, parce que ça fait 25 ans que je suis professeur à l'école des Beaux-Arts de Dijon, et puis aussi à l'école Bleue, dans la section scénographie. Pas 25 ans, là, il n'y a que 3-4 ans. Je crois que c'est vraiment la chose importante, c'est la curiosité. Il faut qu'ils soient à l'affût de tout. Il faut qu'ils n'aient pas peur de faire ce qu'ils ont envie de faire, véritablement, à partir du moment si on suit les conseils de mon père, écoute tout le monde et suis ton idée avec celui qui veut bien la partager. Je pense que là, on arrive à tout. Mais c'est avoir une grande ouverture et une grande curiosité de tout. Voilà, je pense que c'est important.
Thomas ?
Moi, je dirais, c'est compliqué, mais qu'à partir du moment où on se fait plaisir, souvent ça marche. La phrase de mon grand-père, écoute tout le monde et suis celui qui t'intéresse. Quoi, celui qui est d'accord avec toi. C'est ou alors, suis ton idée. Et une autre phrase d'un professeur, fais ce que tu veux du moment que c'est justifié. Donc à partir de là, à partir du moment où on fait vraiment ce qu'on veut, mais où c'est toujours dans l'intelligence du projet, et on se fait plaisir, normalement, ça marche. Et si ça ne marche pas, il faut toujours réussir à faire ce qu'on veut dans l'intelligence du projet et de dévier en fait l'idée pour que ça plaise et au client et à soi. Pour moi, c'est vraiment le se faire plaisir.
Il faut y croire. Et je pense que quand on est persuadé de notre logique, on arrive à la transmettre. Si on n'est pas persuadé des choses, on n'arrive pas à transmettre et ça ne va pas jusqu'au bout.
Oui, on en revient à la sincérité, en fait.
Absolument.
Il faut être en phase avec soi-même.
Il faut se planter, mais d'être content de ce qu'on a fait.
Oui, puis aussi, planter pour apprendre.
Voilà. De toute façon, il faut apprendre.
Et puis aussi, cultiver sa différence. Je crois qu'à partir du moment où on sait qu'on est différent, on est tous différents, et si on est persuadé de ça, il faut rebondir dessus et vraiment faire quelque chose avec ça. Parce que si on rentre dans le moule, le problème de la mode, par exemple, si on veut absolument rentrer dans la mode, on va au casse-pipe, il faut essayer d'être logique par rapport à soi-même, par rapport à notre différence. Et là, ça marchera toujours.
Bonne parole. Est-ce qu'il y a des prochaines expositions dont vous pouvez dévoiler les sujets ou pas encore, peut-être ?
Oh, il y en a une, j'espère qu'elle va avoir lieu. C'est une expo sur l'ambre à Hong Kong. J'espère que ça
sur
va se
l'ambre.
Faire. L'ambre, mmh. Oui. Le Covid a fait beaucoup de mal pour tout ce qui se passe à l'étranger. Mais l'ambre, c'est assez magique. Et là, on est dans la transparence aussi. On peut jouer au niveau de la scéno dans le côté translucide, à travers. On est dans le sujet, même dans le matériau s'y prête.
À la fois dans le matériel et l'immatériel.
Voilà.
Le palpable et l'impalpable. Bon, un mot de la fin.
Continuez à se faire plaisir.
Ouais.
Oui, continuez à être libre de se faire plaisir.
Moi, je conclurai en disant qu'on a renoué pour quelques instants avec l'histoire des disciplines et l'histoire familiale. Et je dirais merci mon Dieu, entre guillemets, de nous avoir offert ce temps de la transmission un peu hors norme. Nous étions aussi la semaine dernière dans le podcast dans une histoire de filiation. Et je pense que c'est important de sortir des clichés du piston ou de « oui, mais lui, il a eu son père » ou « ça n'arrive pas comme ça ». Il faut avoir le sens de la famille, le sens de la transmission. Je pense que c'est super important. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et la transmission du travail.
Oui. Rien n'arrive
pour
sans
moi, c'est,
travailler.
Je dirais, la plus grosse transmission, en tout cas de mon grand-père. Une exigence poussée.
Oui, j'en ai un souvenir d'ailleurs.
Oui, une très forte exigence qui, moi, m'ont suivi parce que j'avais la chance de faire mes études au bureau où il y avait mon grand-père qui venait voir et qui donnait son avis. Et pas forcément simple à accepter, mais c'était le meilleur moyen pour moi de progresser. Donc, vraiment une forme d'exigence poussée à l'extrême. Et du coup, sur le lien grand-père, père et fils, effectivement, certains projets, je les ai eus grâce à Frédéric. Mais sans l'exigence, je pense, de mon grand-père et le travail que j'ai eu à l'école, de toute façon, si on n'est pas bon et si on ne convient pas au sujet, on aura beau avoir un piston, normalement, ça ne marche pas.
Mais ce n'est pas un piston, c'est on ouvre une porte. Voilà. On en trouve une porte. Après, à vous de mettre le pied dedans ou pas.
Bien sûr que c'est une chance, mais il faut la saisir aussi, la chance.
Ah ben oui.
Et puis après, c'est une fois qu'elle est saisie, toute l'histoire est à faire.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.